Ça y est, il est 7 heures. Il est temps, il faut s'y atteler. Il faut enfiler. Sa chemise, son fut, son pantalon comme une tenue de super-héros. Son caleçon comme un drapeau. Ses chaussettes comme un oripeau qui vont glisser sur le macadam des choses, sur le pavé de la vie. Être un héros du quotidien. Prendre le métro comme on prendrait un avion pour Jakarta, les armes à la main. Avec la fleur au bout du fusil, y aller, go! Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Foncer dans la mêlée. Rugby et Ovalie, terre d'Ovalie, de combat et d'amitié. Vas-y gamin, fonce! Le gamin, c'est toi, à l'intérieur des interstices. De ta propre grandeur, de ton adultitude qui a transformé l'enfant que tu étais en rêve d'adulte à devenir. Aujourd'hui, j'aime beaucoup moins bien la deuxième partie du morceau musical.
Ça change, oui.
Parce qu'autant, si vous voulez, bon, on est parti sur un truc musical très héroïque. Et là, alors là, je m'y croyais, papa était parti en vol et là, vous m'avez...
J'ai pas mis mon caleçon en drapeau ce matin.
Alors le journal de Thierry Paré.
On ouvre le journal.
Bonjour,
les amis.
Titi Paré, qui était à Paris pendant Bébert, la coulée douce.
Bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la 89e cérémonie des Oscars à Los Angeles cette nuit. C'est en train de se terminer.
Attendez. Je retombe en langage journalistique. Voilà. On nous parle d'accord. Oui, ça va.
C'est une image, hein, voilà. Allons-y gaiement donc pour les récompenses. Sans surprise, La La Land a brillé de mille feux avec pas moins de 7 Oscars sur 14, dont celui du meilleur réalisateur, donc pour Damien Chazelle, de la meilleure actrice pour Emma Stone, de la meilleure chanson originale, de la meilleure bande originale aussi. On va pas tous les faire, hein. Pour le reste, le film Moonlight de Barry Jenkins s'en sort aussi très bien avec 3 récompenses. L'Oscar de la meilleure adaptation, celui du meilleur second rôle masculin et celui surtout du meilleur film. L'Oscar du meilleur acteur a été décerné à Casey Affleck pour son rôle dans le film Manchester by the Sea. A noter aussi l'Oscar du meilleur film étranger qui a été attribué au film Le Client d'Achar Faradi.
Dites-moi, Thierry Paré, quelle est l'incidence sur ma vie quotidienne du fait que La La Land ait eu cet Oscar? Dites-moi.
L'incidence?
Non, en plus, ça va énerver Atman qui déteste La La Land.
Je vais me dire, je suis content pour eux, donc je vais aller travailler le matin en me disant, ouais, c'est génial, on a gagné.
Tu peux avoir d'un seul coup envie de danser sur la table?
Oui,
on peut se réjouir quand même pour les autres.
Comment?
On peut se réjouir pour les autres, c'est bien.
On peut se réjouir pour ceux qui ont perdu, vous voulez dire?
Oui,
bah voilà. Vous avez une bonne mentalité.
Ça me parle.
C'est bien de chez nous.
L'acteur réalisateur américain Bill Paxton est décédé ce week-end. Il avait 61 ans seulement. Il est décédé des suites d'une complication liée à une opération chirurgicale. Acteur fétiche de James Cameron, Bill Paxton a joué dans plusieurs de ses films, Terminator, Alien, True Lies ou encore Titanic.
Ça c'est bien. Une récompense, un mort. Là, vous rééquilibrez les choses.
Est-ce le fruit du ralliement de François Bayrou? En tout cas, si l'on en croit un nouveau sondage Sofres, Emmanuel Macron serait opposé à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Le candidat du mouvement En Marche serait crédité de 25% au premier tour contre 27% pour la candidate du Front National. Ni le candidat Les Républicains, ni celui du Parti Socialiste ne seraient au second tour, ce qui serait une première. François Fillon serait à 20%, Benoît Hamon 14%, Jean-Luc Mélenchon 10%. Au second tour, Le Pen serait battu dans tous les cas de figure. Ce n'est qu'un sondage de plus, hein, donc un instantané réalisé qui plus est jeudi et vendredi dernier. Donc qui ne reflète peut-être pas la réalité du jour.
Va savoir.
Je sais. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont rencontrés vendredi soir. Le candidat du Parti Socialiste et celui de la France Insoumise ont confirmé qu'ils maintiendraient tous les deux leur candidature, dont acte. Les militants d'Europe Écologie Les Verts ont eux entériné à plus de 79% le ralliement de leur candidat derrière Benoît Hamon, mais avec un faible taux de participation, 55%, soit de près de 9500 votants sur 17000 inscrits. Deux personnalités de plus sont décidées de rejoindre Emmanuel Macron. Il s'agit de l'ancienne eurodéputée Danielle Cohn-Bendit et puis du député socialiste Christophe Caresse. Empêtré dans les affaires judiciaires, distancées dans les sondages, François Fillon a accusé hier le gouvernement dans un communiqué, je cite, de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile qui perturbe la campagne. Il faisait référence à plusieurs meetings perturbés par des manifestations, l'un des siens ou encore celui de Marine Le Pen ce week-end à Nantes. Saisir les autorités en cas de cyberattaque, veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats à l'élection présidentielle, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a été installée hier soir au Conseil d'État par le ministre de la Justice. L'affaire France Offshore ou la fraude fiscale pour tous. Nadane Bensoussan comparait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Plus de 300 millions d'euros ont pu être soustraits au fisc grâce à son site France Offshore qui proposait sur Internet à des centaines de contribuables d'échapper à l'impôt en créant des sociétés dans des paradis fiscaux. 65 252, on va terminer là-dessus, c'est un nouveau record d'affluence pour le stade Vélodrome. 65 252 personnes qui ont assisté hier soir à la victoire du Paris Saint-Germain sur Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés 5-1. Ça aussi c'est un record, hein. Jamais Paris ne s'était imposé avec autant d'écart au Vélodrome. Vélodrome. 5 et 1, bah, ça fait quoi, comme le pastis en fait. Autre rencontre hier, Lyon. Voilà. Autre rencontre hier, Lyon s'est imposé 5-0 face à Metz et Caen est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Saint-Etienne. Pas de changement en tête du classement. Monaco reste en tête avec 3 points d'avance sur PSG et Nice.
Réunion. Ouais. Alors, qui a écouté le journal?
Tito, moi,
Christophe,
moi.
Qu'est-ce que Christophe et Tito, vous en avez pensé quoi?
Moi, j'ai retenu 51. La pétanque.
Alors ça vous fait rire. Voilà. Alors on a appris des trucs qui vont changer la face du monde. Voilà. On a des sondages, des catastrophes à venir. On a des drames clashés. Vous 51. Alors ça te fait mal.
C'est comme ça. On retient ce qu'on peut. Comme ça, il parle à tout le monde. Bravo, Thierry.
Bon, alors Christophe Méné.
Moi, j'ai retenu deux choses. Les sondages d'abord qui m'ont pas fait rire du tout. Voilà. Et puis, mais bon.
Quels sondages vous font? Vous pensez que ça chatouille normalement un sondage?
Oui.
Il y en a qui vous font rire.
Oui, il y en a qui me font rire. Oui.
Alors, dites-moi un sondage qui vous fait vraiment péter de rire. Alors.
Il y a 60% de chance pour que je présente cette émission.
Ah oui, effectivement.
Voilà, celui-là, il est drôle.
Ah, oui,
alors
bien.
Que Marine Le Pen au second tour, il n'est pas drôle.
Voilà.
Et puis après, il y a le petit jeu de mots de Thierry Paré sur la victoire du Paris Saint-Germain. Il essaye d'être modeste.
Marie et Thomas, vous pensez que le premier journal du lundi, la journal de la semaine était... Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Peu de choses parce que j'étais en train de lire derrière. Enfin, j'ai retenu le début, les Oscars. Puis après, je n'ai pas écouté Thierry. Bah,
moi, j'ai écouté.
Tu m'écoutes plus, Marie.
Thomas Baumgartner.
C'est surtout une histoire de rythme, en fait. Je pense que c'est vraiment, oui. Il nous met sur les rails. On avance. Ça ne traîne pas. Ça circule beaucoup. Voilà. Et donc, on est comme ça sur une lancée pour la journée.
Ah, bah, il est bon.
On avance. Ouais. Mais on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. À tout de suite.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Le monde court, le monde se presse, et là vous avez vraiment autour de cette table les gens les plus affûtés, les plus curieux de tout ce qui se passe dans les méandres de la société. Par exemple, Marie, vous êtes restée toute la nuit sur les Oscars?
Oui, de là, j'en sors.
Et je sais que c'est bien au-delà des prix, vous savez voir des choses qui ne sont pas juste qui a gagné, qui a perdu.
Oui, Edouard.
Je survends un peu un papier que vous n'avez pas préparé.
Non, bah qu'est-ce qu'on
Quelle
peut
est l'atmosphère
dire?
Parce que les gens disent toujours que c'est beaucoup mieux les Oscars, c'est encore plus ennuyeux que les Césars, sauf que le plan de coupe dans le public, c'est Clint Eastwood au lieu d'être Marthe Villalonga. Voilà, j'aime beaucoup de Marthe Villalonga, mais c'est vrai que c'est la seule différence.
Bah, l'atmosphère, on s'en doute, c'est le côté un peu anti-Trump.
Ah, ils ont beaucoup parlé de Trump.
Ils ont pas mal parlé de Trump. Il y a notamment l'Oscar du meilleur film étranger qui est revenu à Le Client d'Asghar Farhadi, et lui, il avait refusé de s'y rendre. Pour protester contre l'histoire du Muslim ban, pour protester contre l'histoire des visas. Il y a aussi La La Land qui a gagné pas mal de prix avec l'Oscar du plus jeune, enfin l'Oscar du réalisateur.
C'est pas mal d'avoir l'Oscar du plus jeune, un truc comme ça.
C'est le réalisateur Damien Chazelle, il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur à 32 ans, c'est le plus jeune de l'histoire. Puis alors les grands gagnants, c'est donc La La Land et Moonlight de Barry Jenkins.
Et les gens avaient l'air, je sais pas, il y a eu des petits moments un peu poétiques, un peu étonnants.
Il y a
toujours ce côté Hollywood, on appuie sur un bouton et les larmes arrivent. Quoi,
Edouard, j'ai essayé de regarder en direct les Oscars, mais aucun site français ne me le permettait. Donc j'ai regardé que les directs, comme celui de BFM
on
TV
dû
ou du Figaro.
Notre hacker Exema24, vous aurez expliqué comment regarder. Les Césars, il y a eu des choses assez mouvantes. Il y a eu Cluzet qui a été bien. Il y a eu non. Qu'est-ce que vous avez regardé?
Jérôme Commandeur, il a été très bien.
Jérôme Commandeur, il est très bien. Jérôme Commandeur. Christophe, qu'est-ce que vous avez vu après ce matin?
Moi, j'ai une information polémique. J'ai lu ce matin sur le site de 20 minutes que le président islandais Gunnsi Johannesson, j'ai du mal avec l'islandais.
Oui, je sais, ça a toujours été un problème.
Oui, toujours.
Vos rapports à l'islandais, je sais que ça a nuit à votre carrière.
Manger un morceau de pizza, ça va passer beaucoup mieux, tu vois.
Voilà. Et ben voilà, ben justement.
Quoi?
Donc il a suggéré, il y a quelques jours, d'interdire la pizza hawaïenne, ce qui avait créé un buzz énorme. Mais voilà, il a fini par se raviser en postant un tweet cette nuit où il dit, je cite, « Je n'ai pas le pouvoir de faire des lois qui interdisent aux gens de mettre des ananas sur leur pizza. Je suis heureux de ne pas détenir un tel pouvoir. » Les présidents ne doivent pas avoir un pouvoir illimité.
Voilà. Attendez,
alors,
déjà on est dans le cas d'une info décalée, hein, comme on dit dans le monde des médias. On est dans le décalage, c'est le refus du réel pour essayer de prendre le biais. Donc la pizza hawaïenne, c'est la pizza à l'ananas déjà.
À l'ananas, avec de la mozzarella.
Il faut que tu précises qu'il y a quand même des Italiens qui refusent de mettre de l'ananas dessus, parce qu'ils considèrent que c'est un crime de lèse-majesté de mettre de l'ananas dans une hawaïenne.
Oui, alors que je vois pas du tout...
qui refusent de mettre du citron sur du poisson, et des restaurants français qui veulent pas mettre du ketchup sur le coca. Mais... pour en revenir à cette information, Christophe, pourquoi y a-t-il eu cette tentation à un moment de l'interdire en Islande ?
Parce que le président a jugé que ce n'était pas bon.
Ah d'accord, donc voilà. Il a envie d'interdire le pas bon.
Voilà, il a pour lui, mais le pas bon pour lui. C'est-à-dire, moi j'aime l'ananas.
C'est pour ça qu'il s'aperçut,
si jamais...
je comprends bien.
Non, mais,
donc c'est pas bien d'interdire le pas bon.
Non. En fait, il faut quand même préciser, il est très populaire ce monsieur.
Voilà.
Il a participé à une Gay Pride par exemple, ce qui ne se faisait jamais. Il est très populaire. Parce qu'il est décontracté, il est cool, et il était dans une école. Il répondait à la question d'un enfant.
Oui,
je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aime pas, et il a dit je n'aime pas l'ananas sur les pizzas. Oui, voilà. De là tout est parti, le scandale, la crise politique est partie de là.
Vous, il est 7h15, vous êtes au cœur de l'actu, au cœur de l'info, au cœur du monde qui bouge. Thomas Baumgartner, vous, c'est pas ça que vous avez noté?
Bah, c'est pas très loin, parce qu'il a pas signé l'appel au droit à bien manger, le président islandais, cet appel qui est publié par Libération ce matin, mais il aurait pu finalement. C'est signé par plusieurs chefs, Olivier Rollinger par exemple, Alexandre Gauthier, Michel Bras, entre autres, mais aussi des journalistes, des gens qui réfléchissent au goût et à comment on doit se nourrir, et donc dans cet appel au droit à bien manger, ces gens-là rappellent une chose, c'est que c'est pas qu'une question de moyens, la culture du bien manger, c'est aussi une question d'apprentissage et d'éducation. Il y a une question que je trouve à la fois simple et essentielle et qu'on lit rarement noir sur blanc. Peut-on accepter que notre alimentation et ses modes de production soient cancérigènes et sources de maladies quand elles devraient apporter santé et bien-être ? C'est tout bête, mais on aime bien voir ce genre de choses écrites. Et donc c'est un appel à, évidemment, il y a une campagne présidentielle en ce moment, donc aux responsables politiques, pour apprendre à bien manger, à bien se nourrir. Et puis aussi, appel à une agriculture paysanne, réduisant les intrants chimiques, utilisant des semences rustique et fondée sur des principes agroécologiques, et on nous dit que ce type d'agriculture peut nourrir aussi une population grandissante. Elle n'est pas obligée d'être dans une agriculture intensive. Voilà, c'est un appel au droit à bien manger dans l'IBC.
Alors c'est signé quand même par des grands chefs, Rollinger, Akankal ou Bras à l'aïeul, qui sont plus des 2-3 étoiles, ou est-ce que ce sont des gens qui sont investis aussi dans la nourriture pour tout le monde à des tarifs raisonnables?
Non, mais il y a des paysans maraîchers, il y a des philosophes aussi, il y a Philippe Desbrosse qui est défenseur des semences paysannes, c'est assez mélangé, il y a même Natacha Régnier qui est comédienne.
Alors on mange peut-être pas très bien, mais avant on ne mangeait pas si bien non plus. Je rappelle que l'espérance de vie continue de croître et qu'avant on mangeait beaucoup de pourri, hein.
Non, mais exactement.
Et la chaîne du front interrompue.
Il vient de soulever un lièvre.
Non, mais je sais bien que c'est un de vos combats de dire que ça va quand même bien aujourd'hui.
Non,
mais
c'est pas mon combat. Je veux dire que la chimie, ça s'appelle aussi la médecine. Alors d'autres remarques.
Ouais, je suis contre les médicaments, Edouard
Baird. On peut réunir les deux phrases alors entre Thierry et puis Thomas. En fin de compte, ce qu'il faut surtout pas interdire, c'est la nana. Après la pizza.
Bon, alors je vais vous dire une chose. Ça va aller très vite. Tito, c'est dehors. Et Dio, tu t'y sors.
Tito, voilà. Il est viré.
Et on se retrouve tout de suite après avec Dominique Régnier. Merci. C'est au Georges qu'on a croisé dans Rio qui devait absolument être à l'antenne. Et puis après, vous savez ce que c'est un homme dans Rio la nuit. C'est le grand, c'est au Georges. La favela est un problème social. C'est où Georges, publicité, Dominique Régnier, l'émission est comme un train dans la matinée.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi, non là pardon, mais je suis pressée là.
Mais non, arrête-toi, enfant. Dominique Régnier, bonjour.
Bonjour, Edouard Baird.
Dominique Régnier, vous êtes un fin observateur de la vie politique de tous les côtés. Vous avez été candidat dans le Sud-Ouest, vous êtes professeur à Sciences Po. Et vous me dites, jamais je n'ai constaté un tel dérèglement des comportements dans une élection présidentielle.
Si, oui, c'est une élection sans pareil, à coup sûr. Avec, on l'a vu ce week-end, la concentration de tous les éléments qui d'ores et déjà annoncent un résultat surprenant et des conséquences difficiles à imaginer aujourd'hui. Il y avait la question des affaires est très présente encore aujourd'hui. C'était d'abord autour de François Fillon, maintenant Marine Le Pen, mais ça fait planer sur l'élection une espèce d'ambiance très très lourde et qui va peser sur le choix des électeurs, même s'il est difficile d'anticiper le sens de leurs décisions. On ne sait pas très bien comment les électeurs vont percevoir cette présence de l'appareil judiciaire. Impressionné aussi ce week-end par les violences contre le Front National, les bus du Front National qui ont été attaqués à Nantes, la ville qui a été le lieu d'une manifestation très, très violente contre le Front National. C'est très impressionnant parce que la probabilité que Marine Le Pen soit au second tour, eh bien, on le sait, elle est très élevée. Et donc, on ne sait pas très bien comment ce pays va se comporter si Marine Le Pen est effectivement au second tour, si elle frôle la victoire, si peut-être même elle gagne, ce qui n'est pas... personne ne peut l'exclure aujourd'hui. Donc, une espèce comme ça de crise sociale, peut-être même de crise urbaine latente.
Une atmosphère de guerre civile qui serait
alors peut-être que le terme est fort, j'ai hésité à l'employer, et peut-être qu'il est fort, mais c'est quand même très impressionnant dans une campagne électorale de voir des émeutes contre un candidat. Là, il s'agissait d'émeutes, c'est quand même une première.
Mais est-ce que ça n'est pas rare aussi qu'un candidat qui soit en position d'être au second tour soit autant dans la provocation verbale en stigmatisant tel ou tel type de population ?
Oui, c'est, en même temps, c'est une candidature. Alors évidemment, on connaît le Front National, on sait son programme, son discours. Mais c'est une candidature qui est validée par le système républicain. Donc voilà, c'est l'idée que...
Qui reste très démocratique en apparence, vous voulez dire, qui a les apparences de la normalité, disons.
Ou en tout cas, le parti est autorisé. Donc là, on est dans une difficulté logique. C'est-à-dire, si le parti est autorisé, il est censé faire partie de l'arc républicain. Je dis ça, je suis très à l'aise, j'ai beaucoup de conflits avec ce parti-là. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen et le Front National ont déposé plainte contre moi pour diffamation. Donc j'ai un rapport avec eux qui est assez compliqué.
Mais personne ne vous accuse, Dominique, d'en croquer. Alors, donc les affaires, les violences militantes, est-ce qu'on peut dire que tout à coup le programme des candidats passe vraiment en second plan ?
Oui, le programme passe en second plan. Le débat sur le fond est tout à fait... oublié. Je crois que chacun peut s'en rendre compte. On ne sait pas très bien ce que veut faire chacun des candidats qui peut être élu. Et puis, il y a cette espèce de fusée tout à fait étonnante. Emmanuel Macron, on le répète, hein, il n'a jamais été candidat. Il est porté par un mouvement qui n'a jamais présenté de candidat. Donc, c'est une situation tout à fait particulière, vraiment originale. Il faut mesurer que cette élection présidentielle est très régulée par les partis, par les institutions, qu'elle doit déboucher sur la désignation d'un président ou d'une présidente qui aura une majorité parlementaire pour gouverner. C'est ça le cycle normal, le fonctionnement normal. En réalité, ce que l'on voit aujourd'hui poindre et de plus en plus, c'est la possibilité que, quel que soit l'élu, l'élection présidentielle ne lui accorde pas une majorité en juin qui suit parlementaire. S'il n'y a pas de majorité parlementaire, nous aurons un président pour rien. Un président qui ne servira à rien, puisqu'il faut bien dire en un mot que dans notre Constitution, un président qui n'a pas une majorité parlementaire n'a même pas le pouvoir de choisir son Premier ministre, n'a même pas le pouvoir de former le gouvernement et encore moins le pouvoir de gouverner.
Parce qu'en fait, c'est ça, les élections législatives sont encore au scrutin majoritaire. Donc, si ça n'est pas le candidat élu n'est pas issu des deux grands partis traditionnels, c'est très compliqué de former derrière un parti majoritaire.
Alors,
à l'Assemblée nationale.
Ils peuvent être extérieurs aux grands partis traditionnels s'ils se forment une coalition ad hoc spécifique pour soutenir le président qui a été élu. Par exemple, on ne peut pas exclure qu'Emmanuel Macron forme une majorité pour lui, mais il faudra qu'il l'invente, qu'il la constitue. Oui. Ça ne va pas être simple de faire élire des députés pour Emmanuel Macron, qui ne sont pas soit d'anciens députés socialistes, soit d'anciens députés du centre, qui se seraient ainsi recyclés. C'est là que ça va être compliqué. Et donc, on peut avoir immédiatement une sorte de crise institutionnelle avec un président élu, certes, et l'incapacité pour lui de gouverner. Le pire serait que, parmi les députés élus, qui ne seraient pas en mesure d'offrir une majorité au président, il n'y ait aucune majorité qui puisse se dégager, que l'éclatement soit tel qu'on ne puisse pas trouver une majorité ou une majorité stable. Et là, nous aurions à ce moment-là une crise de régime.
Dominique Régnier, est-ce que ça vous passionne surtout ? Est-ce que ça vous inquiète plus ?
Ah, ça m'inquiète plus maintenant. Ça m'a passionné longtemps. C'est un grand sujet, la politique. On peut trouver ça détestable ou désagréable ou je ne sais quoi. Ça trame beaucoup nos vies, qu'on le veuille ou non. Donc, il est toujours préférable de regarder ça de près. Mais là, nous sommes depuis quelques années sur une pente. Et là, on arrive, en 2017, dans deux mois, on arrive très, très clairement sur une espèce de réalité très préoccupante, très inquiétante, en tout cas à mes yeux, mais je ne crois pas être le seul. Il faut juste dire ceci, l'élection française, selon son déroulement, va ou non provoquer une crise de l'euro ou une crise de l'Europe. Oui ou non, selon son résultat, personne ne le sait aujourd'hui. Et ça, c'est une crise planétaire, pas simplement française. C'est une grave crise française, mais ce serait aussi une crise planétaire. Si bien qu'on a là une élection nationale, mais qui a le statut d'un événement planétaire. C'est la première fois que ça se produit. On peut s'intéresser du bout du monde à l'élection française parce qu'on aime ce pays, parce qu'on s'intéresse à la politique. Et encore une fois, les registres ne sont pas les mêmes. Mais on va s'y intéresser cette fois-ci parce que ce sera un événement dont les conséquences sont possiblement planétaires. Je vous parie, Edouard Baird, que à l'élection présidentielle française, il y aura un record d'affluence de presse internationale pour essayer de scruter le résultat.
C'est formidable, on reparle de la France. Merci de me
Merci Edouard.
Si on en va, on écoutait Timber Timbre à l'instant avec le titre Curtains.
Edouard,
alors il arrive, Edouard Baird est là
alors,
aussi.
Alors voilà, bonjour. Alors, on était à la recherche dans les couloirs de Thierry Paret parce qu'il est d'usage toutes les demi-heures de faire un rappel des titres. Ça tombe bien, la demi-heure vient de tomber.
7 Oscars sur 14 pour La La Land. La 89e cérémonie des Oscars vient de se terminer à Los Angeles. Le film de Damien Chazelle a reçu notamment l'Oscar du meilleur réalisateur, celui de la meilleure actrice pour Emma Stone, de la meilleure bande originale, chanson originale d'abord, et puis de la meilleure bande originale aussi d'ailleurs. Pour le reste, le film Moonlight de Barry Jenkins s'en sort très bien aussi, avec 3 récompenses. L'Oscar de la meilleure adaptation, celui du meilleur second rôle masculin, et puis surtout celui du meilleur film. L'Oscar du meilleur acteur a été décerné à Casey Affleck pour son rôle dans le film Manchester by the Sea. Et puis on notera aussi l'Oscar du meilleur film étranger qui a été attribué au film Le Client d'Achar Faradi. Alors il y a une anecdote, on cherchait le petit truc. Celle-là elle est quand même de taille. C'est-à-dire qu'au moment de remettre l'Oscar du meilleur film, Warren Beatty, donc qui présidait la séance, s'est planté. C'est-à-dire qu'il l'a remis à La La Land alors qu'il revenait à Moonlight. Et donc ça fait un peu scandale en ce moment. Ça
Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Cette anecdote
drôle,
est un truc stupéfiant.
Génial.
Alors les Césars, on n'en parle pas. Jérôme Commandeur a fait des choses très drôles, dont un biopic sur la vie de Carlos avec Valérie Lemercier et Françoise Dolto. C'était très très bien.
Est-ce le fruit du ralliement de François Bayrou? On ne sait pas. En tout cas, si l'on en croit un nouveau sondage Sofres, Emmanuel Macron serait opposé à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Le candidat du Mouvement En Marche serait crédité de 25% au premier tour, 27% pour la candidate du Front National, et au second tour, Marine Le Pen serait battue dans tous les cas de figure probables.
Et s'il y a Christophe Méné qui se présente, il paraît que ça ne change rien.
Là, rien du tout, il paraît.
Vous êtes crédité de quoi?
De 0,5% des voix, ce qui est quand même pas mal.
Oui, mais c'est la marge d'erreur.
Oui. C'est le niveau de cheminade, attention, hein, c'est le niveau de cheminade quand même. Deux personnalités de plus ont décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Il s'agit de l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit et puis du député socialiste Christophe Caresse. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont rencontrés. Le candidat du Parti Socialiste et celui de la France Insoumise ont confirmé qu'ils maintiendraient leur candidature, dont acte. Les militants d'Europe Écologie Les Verts, eux, ont entériné à plus de 79% le ralliement de leur candidat derrière Benoît Hamon.
Alors, ils se sont rencontrés. Alors, c'est quoi? On est au cours d'un repas.
C'est exactement ça.
On est en brasserie, on est dans un repas traditionnel. Il y a une brasserie. Par exemple, il y a d'abord une entrée. On dit: qu'est-ce que tu prends, mon Benoît Hamon? Ça peut être une terrine. Est-ce que c'est au contraire peut-être une sorte de pâté aux trois poissons avec son coulis de tomates? Est-ce qu'ensuite on est sur une viande? Ou est-ce que comme c'est un déjeuner, peut-être qu'on mange plus léger, on est plus sur un poisson de pêche de proximité, un poisson de petite pêche, un poisson durable? Est-ce qu'ensuite on est sur un pichet de vin? On est à gauche, on n'est pas en train de mettre trop de pognon dans le déjeuner. Est-ce qu'on est sur une bière? Est-ce qu'on est sur deux demi de bière? Est-ce qu'on est dans une ambiance conviviale? Est-ce qu'on a fromage et dessert? Est-ce qu'on est sur des pâtes molles, des pâtes dures? Est-ce qu'on est sur du fromage à base de lait frais? Est-ce qu'on est sur du pasteurisé? Est-ce qu'au moment des desserts, Benoît a dit à Jean-Luc: mon grand, j'ai bien bouffé, mais toi, vas-y, prends la petite mousse au chocolat. Il paraît qu'elle est pas mal comme la serveuse qui est gironde. Et l'autre lui dit: t'es marié, tu vas pas commencer à mater la serveuse. Il dit: hey, on est en France! Ah, pardon, excusez-moi.
Empêtré dans les affaires judiciaires, François Fillon lui accuse le gouvernement dans un communiqué, je cite, de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile qui perturbe la campagne. Il faisait référence à un de ses meetings, mais aussi à celui de Marine Le Pen ce week-end à Nantes. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Saisir les autorités en cas de cyberattaque, veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats à l'élection présidentielle. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a été installée hier soir au Conseil d'État par le ministre de la Justice. L'affaire France Offshore, ou la fraude fiscale pour tous, hein, Nadad Bensoussan, comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Plus de 300 millions d'euros ont pu être soustraits au fisc grâce à son site France Offshore, qui proposait sur Internet à des centaines de contribuables d'échapper à l'impôt en créant des sociétés dans des paradis fiscaux. Alors que le carnaval de Rio bat son plein, un groupe intitulé Fora Temer, dehors Temer, a défilé en brandissant des banderoles exigeant le départ du président conservateur.
Il y a un char, vous savez, il y a le chef Raoni, le grand chef indien, parce que le carnaval c'est pas simplement des paillettes, c'est aussi, c'est très politique, et il y a beaucoup d'écoles de samba qui qui ont des thématiques politiques. Et l'une d'elles a choisi de mettre le chef Raoni, le chef de, un des grands chefs indiens de l'Amazonie, sur le char pour reparler de la déforestation. Voilà, donc la politique est très liée à la fête là-bas.
Jamais le Paris Saint-Germain ne s'était imposé avec autant d'aisance et autant de buts au stade Vélodrome. Hier soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le PSG est allé s'imposer 5-1 sur le terrain de l'OM. Autre record d'ailleurs, record d'affluence pour le Vélodrome avec 65 252 personnes.
On est à la fin du repas Mélenchon-Hamon. Est-ce qu'après le dessert, Jean-Luc a dit à Benoît, tu prendras un café serré? Ben ça va, on est copains, on peut prendre un petit pouce café. Armagnac, cognac ou simplement une fine Napoléon? Non, un bar Armagnac, et on y va, et ça trinque, et on se réconcilie. Et il y a des jambons, il y a des guitares. Tu vas pas conduire dans cet état-là? Mais non, j'ai mon chauffeur. T'as encore un chauffeur? Mais c'est un chauffeur à vélo. C'est aussi... Je suis fatigué. Ça va? On est bon sur les infos?
On est pas mal.
Très bien. Alors, il y a deux choses. On a la météo flamenco, qui est un classique. Mais c'est du flamenco puro. Donc, ça se fait dans une atmosphère très recueillie. Tito.
Alors, aujourd'hui, il va pleuvoir dans toute la France. Sauf à Biarritz, à Grenoble, à Marseille, à Nice et... bien sûr, dans le sud, donc la Corse. Les températures seront à Agen de 7 à 18, à Boulogne-sur-Mer de 4 à 9, à Évreux de 3 à 11, à Paris de 6 à 11, à Poitiers de 5 à 11, à Séville de 7 à 19, à Saint-Étienne de 6 à 14, et bien sûr, à Paris, entre 4 et 11.
Alors, on part tout de suite dans la rue rejoindre Jack Souvent.
On est place de la Nation. Moi, j'ai une phrase, par exemple, qui dit « Rien n'est vrai, tout est vivant ».
Vous êtes place de la Nation. Attendez, Patrick Boucheron, asseyez-vous, suivez la conversation. Patrick Boucheron, qui nous fait l'honneur d'être là, professeur Collège de France. Donc, vous êtes place de la Nation et quelle est la phrase ?
Je suis place de la Nation et j'ai une phrase qui me vient. Quel est votre prénom ?
Joël.
Je suis avec Joël et puis je lui ai posé la question « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Ça vous inspire quoi ?
Oui, moi, je connais quelqu'un qui disait « j'ai peur de me réveiller morte ».
Mais pourquoi opposer le vrai au vivant, Jack Souvent ?
Je sais pas, c'est toutes les vérités, voilà, il n'y a pas de vérité, tout bouge tout le temps. Donc, je posais cette question, place de la Nation, que rien n'est figé peut-être, Joël.
Je ne sais pas si rien n'est figé, mais en tout cas, en ce moment, on cherche partout où est le vrai, où est le faux, quoi, dans la politique, dans le monde actuel. Quoi.
Et vous embêtiez Joël qui partait travailler,
Exactement, et je suis grillé, là, parce qu'on va dire qu'elle va être en retard au travail.
Vous vous êtes fait alpaguer par Jack Souvent, place de la Natation.
Voilà.
C'est pas un lieu anodin, évidemment.
Écoutez, moi je suis venu, j'ai regardé, ils étaient tous partis, il n'y avait plus de manifestants, donc...
Alors, les manifestations du lundi matin, c'est une occasion d'arriver en retard au boulot, oui.
Voilà, exactement. Donc.
Cette grande statue là qui est au centre, là.
Oui. Alors là, si vous me posez l'histoire de Paris, là, je ne connais pas. Hein. Là, c'est là qu'on va voir si j'ai bien suivi à l'école ou pas. Donc, ça va être très, très mauvais.
Vous allez travailler où, Joël ?
Alors, moi, je vais travailler au domicile de mes patients. C'est-à-dire, je suis infirmière en soins à domicile. Donc, voilà, donc,
alors vous commencez par quoi ? Vous avez quoi ce matin ?
Je suis porte de Pantin, je vais voir... j'ai pas le droit de dire ni les soins ni ce que je fais, mais enfin voilà...
On est sur un pansement, on est sur une piqûre, on est sur quoi ?
Plutôt des piqûres, des pansements, des préparations de médicaments, des choses comme ça.
On serait sur une intraveineuse ? On serait sur quel type de piqûre ce matin ?
Non, les intraveineuses, on n'en fait pas trop à domicile, parce qu'il faut de la surveillance, donc nous c'est vraiment les petits soins, quoi, petits soins qui...
C'est l'infirmière qui arrive, qui rassure tout le monde. Vous avez qui est là, c'est la piqûre ?
Voilà, et puis on essaye de faire rigoler en même temps.
Ben, je sais.
C'est pour améliorer le quotidien des gens, essayer qu'ils soient bien chez eux et qu'ils puissent y rester le plus longtemps possible. Voilà.
Il y a des
gens meilleures conditions.
Donc ils sont bien contents de vous voir arriver.
En général, oui. Ouais. En général, oui. Ils aiment bien quand on rigole un peu.
Voilà. Écoutez, vous avez l'air d'avoir...
Alors, en même temps, vous avez l'œil qui a changé. Là. Quand vous parlez boulot, vous êtes hyper concentré.
Stressé, non, non.
Vous êtes concentré.
On est concentré dans ce qu'on peut. Hein.
Par exemple, j'ai envie de vous poser une petite question. Regardez, qu'est-ce que vous avez dans vos poches, vous, là ? Moi, dans ma poche, j'ai un stylo, 5 euros, un ticket de métro.
Oui, les 5 euros, si vous voulez.
C'est très en forme, Joël.
Moi, j'ai le passe Navigo, j'ai le téléphone, parce que le téléphone, c'est incontournable, le portable, pour travailler, parce qu'il faut être joignable tout le temps. Et puis, bah, c'est tout. Les cartes bancaires, je vous les laisserai pas, non.
Bon, accompagnez Joël dans sa tournée, Jack.
On est parti.
Voilà, allez, la bonne humeur. Et une bonne journée à tout le monde.
On va vous retrouver tout de suite. On retrouvera juste après la pub Patrick Boucheron, professeur au Collège de France.
Oui.
Patrick, vous
Joël.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Non.
Je vous ai appelé. Mais
tout va bien se passer, Edouard. Je vous sens nerveux.
Envoyez un petit peu la pub.
7h-9h plus près de toi. Nova.
Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Patrick Boucheron, vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes l'auteur de l'Histoire mondiale de la France qui est paru aux éditions du Seuil.
L'un des auteurs.
Non, non.
Si, si.
Non, vous m'avez dit, c'est moi qui ai tout fait.
Ah, mais alors, sous 122 noms d'historiennes et d'historiens différents.
Ça me fascine d'ailleurs les sommes comme ça qui sont faites par plein de gens depuis l'encyclopédie jusqu'à vous. Chacun rend son papier, il y a des grandes réunions où les sens sont là. Comment
depuis
on
l'encyclopédie jusqu'à moi, je vous lis tous les matins.
C'est pas mal, hein. je vous sers très discrètement des fleurs. Comme ça, c'est une sorte de... C'est comment cette émulation-là de décrire c'est un bouquet.
Oui, c'est un bouquet de dates. Parce que c'est amusant les dates, c'est comme ça qu'on a appris l'histoire. Et en même temps, on a envie de la raconter autrement, parce que l'histoire, bah, c'est comme Joël, l'infirmière, vient de le dire, c'est vivant, mais c'est vrai. Elle disait, c'est pas vrai, c'est vivant. Et au fond, l'histoire telle qu'on la raconte, telle qu'on l'écrit, c'est une manière de, non pas de constater la vérité, mais de la construire. Et on la construit en l'écrivant. Et nous, on a voulu l'écrire ensemble. Voilà. Au fond, le livre n'a pas d'autre objectif que sa forme même, c'est-à-dire construire un collectif à partir d'une conception de la France un peu plus ouverte, plus respirable, qui tente de faire la part de l'autre. Voilà, c'est tout simple.
Vous dites ça, vous dites une des choses qui m'attire dans l'histoire, je voulais m'amuser, alors ça m'a stupéfait. Je trouvais que c'était amusant, oui.
Il y a d'autres motivations dans le savoir. Enfin, s'il y en a d'autres, elles doivent être, comment dire, contrebalancées. C'est un jeu sérieux. Mais l'histoire, ça a rapport avec l'enfance. Et quand on se souvient de l'enfant qu'on a été, on se souvient qu'il n'y avait rien de plus sérieux, rien de plus important que de jouer. Mais il y a des règles du jeu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois être vrai et vivant. C'est-à-dire que ce qu'on a en commun, les 122, c'est pas une communauté de principes ou d'intentions ou encore moins la carte d'un parti. C'est une communauté de méthodes. On fait comme ça. Voilà. En règle générale, ça indiffère tout le monde. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu comme une écoute, une attention. Comme si notre manière, j'allais dire ordinaire, de présenter les choses trouvait à un moment, qui est un moment sérieux, grave, on l'a entendu avec Dominique Régnier, enfin, inquiétant au sens propre, c'est-à-dire qui va tous nous bouger, qui va peut-être même fracasser nos vies, je ne veux pas être casser l'ambiance, mais au fond...
Fracasser nos vies.
Bah oui, on dit oui. On dit de ce livre qu'il est jubilatoire, je l'ai lu, mais je me souviens d'où il est né. C'est-à-dire d'après, en novembre, fin novembre 2015, avec l'idée que il fallait peut-être commencer à faire quelque chose. Et ce quelque chose, chacun devait le faire là où il était. Nous sommes des historiens, nous ne sommes bons qu'à ça.
En temps de paix, on oublie en fait que l'histoire ou que les gouvernements peuvent vraiment changer nos vies, comme vous dites, les
oui,
fracasser.
Oui, il y a un déni incroyable. Alors, cette histoire mondiale de la France, elle est organisée en dates, mais ces dates ne jalonnent pas une pente irréversible. C'est ça d'ailleurs qu'on a l'impression qu'au fond, les gens cherchent dans l'histoire le contraire de ce qu'elle peut offrir, c'est-à-dire une sorte de ligne acérée comme une flèche où tout irait vers une seule direction. Pendant très longtemps, ça a été le progrès. Aujourd'hui, c'est la décadence. Mais à tout moment, ça peut bouger. À tout moment, c'est indécidable, l'histoire. Et ces intrigues, ces dates, elles sont là pour montrer qu'il y a toujours des carrefours possibles. Et aujourd'hui, il y a une puissance de déni pour croire que ce qui est annoncé n'arrivera pas, qui doit nous alerter. Alors les historiens n'ont aucun privilège à faire valoir sur l'avenir. Ils sont juste des travailleurs un peu humbles du passé. Mais à partir de là, ils peuvent avertir, ils peuvent prévenir. C'est un livre prévenant. Mais prévenant, ça veut dire aussi délicat. C'est comme le soin.
Comme la piqûre de Joël.
Comme la piqûre de Joël, qui nous a fait chialer. Quoi.
Patrick Boucheron, il s'agit aussi de, avec ce livre, avec Histoire mondiale de la France, pour les historiens, de reprendre d'une certaine manière le contact avec un public, et en tout cas avec ceux... L'histoire plaît. Les Français aiment bien l'histoire. Et là, dans ce livre-là, les 122 auteurs et les 146 dates montrent qu'on peut raconter, continuer à trouver un récit en fait, de l'histoire, une narration de l'histoire, et qui ne soit pas une narration réactionnaire de l'histoire, qui soit justement une narration ouverte. L'histoire mondiale de la France, c'est l'histoire de la France parcourue de mouvements en tous sens, comme vous dites, pas un seul sens, pas une seule direction, parcourue de mouvements depuis la grotte Chauvet jusqu'à la dernière date traitée, c'est 2015. C'est de dire aussi, voilà, nous, historiens, nous reprenons la main sur la narration.
La narration, le récit, ouais. C'est ça. Évidemment, vous avez raison, c'est le mot-clé, parce que contre les récits mensongers, les historiens ont cru pendant très longtemps n'avoir à réarmer que leur sens critique. Alors, évidemment, c'est notre boulot, déconstruire, mettre en doute, complexifier.
Mettre en chiffres aussi.
Oui, mais sauf que les chiffres, si autour on ne les enrobe pas d'un récit, ils ne convainquent personne. Et puis au fond, dire c'est plus compliqué que ça, ça ne s'est pas passé ainsi, en fait, je vais vous raconter, ne peut pas être le dernier mot de notre intervention. Donc oui, il fallait, contre les récits simplificateurs, au fond, d'autres récits, mais également entraînants. Et puis courts. C'est pour ça que il y a aussi une adresse à la jeunesse, hein, à vous les jeunes, Edouard.
C'est nous. C'est nous.
Hein, c'est vous, c'est tout vous.
Il y a de très vieux jeunes, mais
oui,
ce
sont quand même des jeunes qui d'une certaine manière opposent à l'histoire telle qu'on leur a enseignée une indifférence polie, pas agressive, mais c'est très bien comme ça. Et donc moi je pars du principe que l'histoire c'est pas intéressant en soi. Que c'est aux historiens de prouver le contraire. Voilà. Et d'où cette forme, quoi. C'est une forme.
Une somme, pour le.
Oui, mais une somme diffractée, une somme qui effectivement chemine et dans laquelle on peut parcourir librement parce qu'il y a des renvois. Je pense que l'ordre chronologique n'est peut-être pas le plus. Le plus indiqué pour lire le livre, parce que les dates renvoient à d'autres. Hein. Ça commence à la grotte Chauvet, ça se termine en 2015, et chaque date est une intrigue de longue durée qui en renvoie à d'autres. Et donc, c'est comme ça que ça bourgeonne.
Alors, Patrick Boucheron, juste après, vous allez nous raconter des belles histoires de cette grande histoire. Ouais. Mais je vous propose d'abord nos histoires à nous, qui s'appellent Publicité, bien sûr. Alors ça, c'est, on parlera de l'histoire du commerce et comment on est devenu milliardaire grâce à ça. Puis un enfant viendra dire un poème. Et vous restez avec nous sur tout ça. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Non, là, pardon, mais je suis pressée, là.
Hein ? Parle dans le micro. Tu vas dire aux autres que t'as dit un poème à la radio ou pas ?
Oui.
T'avais prévenu tes copines que t'avais dit un poème ?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'elles t'ont dit ?
Elles m'ont dit. Elles étaient un petit peu impressionnées.
Elles avaient un petit peu peur pour toi ?
Non.
Impressionné, c'est-à-dire, tu penses qu'il y en a qui t'écoutent là ?
Oui.
On va t'en parler à l'école tout à l'heure ?
Oui.
Oh la tension, l'énorme pression. Bonjour Eva, est-ce que, alors, Patrick, restez avec nous là. Patrick Boucheron est spécialiste d'écoute de poèmes.
Oui.
Est-ce qu'il y a, juste là, de mémoire, est-ce qu'il y a des poèmes pour vous qui font partie de l'histoire de ce pays ? Les poèmes marquants de l'histoire de France ?
Bah évidemment, oui.
On parlait beaucoup de Hugo.
Oui, Hugo. C'est mon grand-père m'offrait les livres de Hugo à chaque anniversaire. Et j'ai encore les livres rouges chez moi.
Eva, à la maison, on dit des poèmes aussi ou pas ?
Non, pas trop.
C'est que des poèmes à l'école ?
Oui.
Y a pas de, papa ne connaît pas de poèmes ? Papa est à ma gauche. Papa, tu connais des poèmes ou pas ?
Par cœur, non, pas beaucoup.
Alors, Eva, tu te rends compte, tu sais plus de poèmes que ton père. Et bien, ta récompense, c'est que tu auras un jingle.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant,
un poème.
Eva,
D'habitude, c'est en maths qu'à partir d'un certain âge, on dit à sa fille, je n'arrive plus à t'aider. Moi, c'est arrivé très tôt. Eva, on écoute ton poème. C'est un poème. Comment s'appelle l'auteur ?
Henri Major.
Henri Major, que vous avez bien connu, Patrick.
Oui, très bien.
On t'écoute, ma chère Eva.
À quoi ça sert un poème ? Ça sert à dire des mots comme on joue de la guitare, de la flûte et du piano. Ça sert à faire savoir qu'on est gai ou qu'on est triste ou bien durement fantaisiste. Ça sert à faire parler de soi ou bien de n'importe quoi. C'est un voyage intérieur, un moyen d'ouvrir son cœur. À quoi ça sert un poème ? Au fond, ça ne sert à rien, mais ça rend la vie plus belle, comme un tour de magicien, un sourire, un arc-en-ciel. À quoi ça sert un poème ? Ça sert à dire je t'aime.
Bravo. C'est superbe. Très beau, Patrick, vous le connaissiez ce poème ?
Et non, c'est très beau.
C'est très beau de dire oui.
Très simplement.
Souvent, quand on apprend quelque chose, on se demande à quoi ça sert. Là, la réponse, elle est claire quand même. Tu aimes bien le répéter, ce poème ?
Oui.
Bon, écoute, on te laisse aller à l'école et on attend un petit peu d'avoir des retombées de tes camarades de classe, savoir s'ils ont aimé. Merci, chère Eva, bravo.
Au revoir.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Édouard.
Oui, je suis avec Patrick. Oui,
oui, oui, on
non,
est juste à
avant le journal. Patrick, votre poème de Victor Hugo. Votre poème préféré de Victor Hugo.
Je peux pas, là, j'ai piscine, je suis obligé
non,
de partir.
Non, dites-moi le début, juste avant le journal, d'un poème de Hugo que vous adorez.
Non, je vais vous en...
Il est bien celui-là.
Oui, il est pas mal. Hein.
Dites.
Vous avez... Non, Baudelaire.
Oui, alors allez-y.
Bizarre déité, brune comme les nuits, au parfum mélangé de musc et de havane, œuvre de quelque hobby, le Faust de la savane. C'est un poème qui fait rimer havane, pavane, savane et caravane, c'est-à-dire les quatre mots français d'une rime riche.
Quand bien même. Sûr, puis la ville de Vannes, bien sûr.
Et, ouais, c'est pas en Havane. Essayez d'être un peu à ce qu'on fait, parce que sinon, ça n'a pas.
Le H aspiré est important. À tout de suite. Bonjour.
Attention aux fortes vagues. Météo France a placé 7 départements du littoral atlantique en alerte orange, une alerte au risque de vagues submersives. Les départements concernés, ce sont le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ça ne va pas être beaucoup mieux sur les autres...
Non. Alors ce qui est important, c'est quand vous dites alerte orange, alerte rouge, derrière bien sûr les drames qui peuvent arriver, il y a quelque chose d'assez beau. Il y a l'idée d'abord de la couleur, le orange, le rouge, comme ça, la couleur émise. Et puis il y a l'alerte. Et dans le mot alerte, il y a quelqu'un qui crie, qui monte sur une tour et qui alerte et qui réunit les gens. Il y a toujours quelque chose d'assez beau dans les alertes de couleurs dans ce pays.
Ça aussi, c'était beau. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la 89e cérémonie des Oscars s'est terminée sur un énorme quiproquo. Oui, énorme, ouais, on peut le dire, avec l'Oscar du meilleur film remis par erreur à La La Land.
Alerte bleue !
Ouais, faut voir la vidéo, hein, ça vaut vraiment le coup. Toute l'équipe de la comédie musicale a été appelée sur scène pour recevoir ce prix, alors qu'en fait, il revenait à Moonlight, donc évidemment...
Ah, ils se sont aperçus une fois que tous les mecs étaient sur scène.
Ah oui, c'était, ils avaient commencé à parler même, le réalisateur avait commencé à parler.
Ah donc, vous avez gagné.
Attendez, excusez-moi, c'est pas,
je
c'est
suis
pas
très
tout.
Ému, merci à ma mère. Ah non,
pardon. C'est pas vous, désolé.
Ah, oui.
Donc c'est Warren Beatty qui était en charge de la remise de ce prix et qui affirme...
Il est plutôt jeune, Warren Beatty.
Je sais pas si on le met sur ce compte-là, je sais pas. Il a dit qu'il affirme avoir eu un problème d'enveloppe. On n'en sait pas plus. Voilà. Il aurait peut-être eu une mauvaise enveloppe en même temps, c'est possible. Hein.
Pour le reste. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu l'enveloppe avec suffisamment d'argent pour dire le truc. C'est pas très clair.
Pour le reste, sans surprise, La La Land a fait exploser les compteurs en recevant 7 Oscars sur 14, dont celui du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Emma Stone, de la meilleure chanson
j'aime
originale.
J'aime bien les expressions journalistiques. Il a fait exploser les compteurs.
Ouais, ça marche.
Il a fait péter les curseurs.
La meilleure bande originale aussi, le meilleur décor aussi. Hein. Outre l'Oscar du meilleur film, Moonlight de Barry Jenkins s'en sort aussi très bien, hein, avec 2 autres récompenses, l'Oscar de la meilleure adaptation et celui du meilleur second rôle masculin. L'Oscar du meilleur acteur a été décerné à Casey Affleck pour son rôle dans le film Manchester by the Sea. Et puis puis on notera aussi l'Oscar du meilleur film étranger qui a été attribué au film Le Client d'Achar Faradi. L'acteur réalisateur américain Bill Paxton est décédé ce week-end. Il avait 61 ans seulement, des suites de complications liées à une opération chirurgicale. Acteur fétiche du réalisateur canadien James Cameron, Bill Paxton a joué dans plusieurs de ses films, Terminator, Alien, True Lies ou encore Titanic. Saisir les autorités en cas de cyberattaque, veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats à l'élection présidentielle, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a été installée hier soir au Conseil d'État par le ministre de la Justice. Justement, tiens, puisqu'on parle de présidentielle, Le Pen-Macron, ce serait l'affiche du second tour de la présidentielle. Selon un nouveau sondage Sofres, le candidat du mouvement En Marche serait crédité de 25% au premier tour contre 27% pour la candidate du Front National. Au second tour, Marine Le Pen serait battue dans tous les cas de figure probables. Deux personnalités de plus ont décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Il s'agit de l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit et puis du député socialiste Christophe Caresch. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, eux, se sont rencontrés. Le candidat du Parti Socialiste et celui de la France Insoumise ont confirmé qu'ils maintiendraient tous les deux leur candidature. Dont acte. Les militants d'Europe Écologie Les Verts ont, eux, entériné à plus de 79% le ralliement de leur candidat derrière Benoît Hamon, mais avec un faible taux de participation, 55%, soit près de 9 500 votants sur 17 000 inscrits. Empêtré dans les affaires judiciaires et distancé aussi dans les sondages, François Fillon, lui, accuse le gouvernement dans un communiqué, je cite, de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile qui perturbe la campagne. Il faisait référence à plusieurs meetings perturbés par des manifestations, un des siens, et puis celui de Marine Le Pen aussi ce week-end à Nantes. L'affaire France Offshore ou la fraude fiscale pour tous, Nadhad Bensoussan comparait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Plus de 300 millions d'euros ont pu être soustraits au fisc grâce à son site France Offshore qui proposait sur internet à des centaines de contribuables d'échapper à l'impôt en créant des sociétés dans des paradis fiscaux. Des vandales ont brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un cimetière juif de Philadelphie aux États-Unis. Dernier événement d'une série de menaces et d'attaques visant des sites juifs à travers les États-Unis. Alors que le carnaval de Rio bat son plein, un groupe intitulé Fora Temer, dehors Temer, a défilé en brandissant des banderoles exigeant le départ du président conservateur. Et puis le PSG s'est offert hier soir un classico historique sur le terrain de Marseille. En clôture de la 27e journée de Ligue 1, le PSG est allé s'imposer 5-1 sur le terrain de l'OM. Jamais Paris n'avait gagné avec autant d'écart. 65 252 supporters marseillais ont assisté à la déroute de leur équipe. C'est un record d'affluence pour le Vélodrome.
Un journal, un historien, Patrick Boucheron, qu'est-ce qui restera de ces informations à votre avis ?
Les trois petits points. J'ai entendu quand vous avez dit Marine Le Pen serait battue dans tous les cas de figure. Trois
probable.
Petits points. Probable.
Le silence qui suit, c'est encore du bruit, c'est ça ?
Et c'est un bruit assourdissant.
C'est ce qu'on appelle le bruit de botte ?
Ça peut l'être. Et en tout cas, voilà.
Jacques Souvent est dans la rue. Jacques Souvent, vous étiez allé vraiment très loin puisque vous étiez Place de la Nation à Paris, ce qui montre chez vous un goût pour les voyages.
Et nous avons l'école et puis Titi là. Et Titi, ça vous fait ?
Oui, bonjour, mon ami KTV. Bonjour à toute la Martinique. On est Place de la Nation, Place de la Nation qui est aussi Place des Antilles.
Tout à fait.
Et
donc j'ai rencontré Thierry qui était en train de tirer son chien avec un skateboard.
Oui, je me prêtais à aller au travail. Et on les met déjà en condition, hein. C'est l'heure de commencer la journée.
Thierry, votre chien est bien accepté sur votre lieu de travail ou est-ce que ça a été un long combat pour arriver à ce regroupement ?
Ben, comment vous expliquer ? Mon chien est carrément le trait d'union dans ce que je fais, en fait. Je suis promeneur de chien et il me sert carrément à améliorer mon quotidien avec cette petite meute.
Et est-ce que la pratique du créole martiniquais vous aide aussi à sympathiser avec des collègues ?
À part avec les compatriotes, je n'ai pas vraiment l'occasion de pratiquer.
Ça vous manque un peu ou est-ce que vous passez des coups de fil, vous vous retrouvez pour avoir l'occasion de pratiquer ?
Eh bien maintenant, avec les nouvelles technologies, Internet et tout, c'est plus facile, on peut communiquer assez facilement.
Donc ça vous manque votre langue natale ?
Quand même un petit peu, hein. C'est toujours quand même, ça fait partie des racines. Hein.
Vous êtes d'où en Martinique ?
Je suis de Grand-Rivière, une petite commune de l'extrême nord de l'île. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un petit coucou à tous les habitants de Grand-Rivière qui écoutent Radio Nova.
Alors écoutez, je sais pas, c'est formidable.
Place de la Nation, une voiture de police. Place de la Nation, c'est aussi le début du carnaval.
Tout à fait. À chaque année, Place de la Nation démarre le carnaval jusqu'à Porte de la Villette. Et c'est un petit lieu que j'affectionne beaucoup.
Et vous me disiez, vous, que votre vie, elle était super parce que vous avez trouvé ce métier où vous promenez les chiens et tout ça, c'était un lieu de rencontre incroyable. Et en même temps, vous me dites que le pays, ça va mal.
Eh bien oui, effectivement, hein, au niveau social, c'est pas le top, on va dire. C'est pas le top, hein.
Mais vous, c'est le top.
Ben, ça va, je me plains pas.
Peut-être grâce à cette histoire de chien, est-ce que vous avez l'impression que pour rencontrer une femme, il vaut mieux se balader avec un enfant ou avec un chien pour aborder quelqu'un? Qu'est-ce qui touche le plus?
En fait, on me pose souvent la question, mais bon, je suis célibataire, donc c'est pas ça qui me fait avoir une femme.
Oui.
Mais je dirais par contre que le fait d'avoir un chien, c'est un vecteur social hallucinant.
C'est vrai que ça rapproche beaucoup. Il y a des agences de location de chiens pour draguer. Il y a aussi des agences de location d'enfants très mignons qu'on se balade comme ça dans ses bras. Et ça touche beaucoup les femmes, un père célibataire avec un enfant.
Ah bon? D'accord, j'étais pas au courant.
Eh bien, essayez-le. Merci, cher monsieur.
Je vous en prie. Bonne journée.
Bonne journée.
Ça fait nous pas ici, on est où là, nous pas échappé.
Qu'est-ce qu'il parle bien, Jacques, souvent, le Martiniquais. Patrick Boucheron, vous êtes sensible aux lieux de mémoire, aux lieux qui sont liés à l'histoire.
Je suis né à Paris.
Vous êtes né à Paris, vous évoquez dans votre discours, dans un discours que vous avez prononcé au Collège de France, je crois, la place de la République, la place de la Nation, sont des places qui ont... C'est important dans les villes, les lieux qui ont vu défiler, qui sont marqués d'histoire. Les villes sont importantes pour ça?
Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en fait, en histoire urbaine et en archéologue aussi. Je m'intéressais à ces sillons profonds, nation, république, ça veut dire quelque chose pour beaucoup de monde et profondément. Voilà. Et ces itinéraires dans la ville, ils nous permettent aussi de comprendre des choses que, par exemple, les monuments disent de manière discrète. La Nation, place des Antilles, Saint-Louis, Philippe Auguste, ça c'est des choses qu'on ne regarde pas, mais qui nous dominent. Et justement l'histoire, ça permet de lever les yeux vers ceux qui nous dominent pour l'envisager sérieusement, que ça ne soit pas que des statues qui, de leur regard froid, nous écrasent la tête, qu'on puisse regarder ça et s'en emparer. Place des Antilles, c'est sérieux quand même.
Oui.
C'est quand même sérieux. Qui sait qu'au fond, dans la Nation, le concept abstrait, eh bien, d'une certaine manière, c'est l'ensemble, nation, république, d'une géographie qui est plus qu'une géographie affective et contestataire, puisque voilà, c'est aussi l'histoire ouvrière. On entendait Lavilliers. Lavilliers, c'est un itinéraire de l'histoire mondiale de la France. Ça commence à Saint-Étienne, ça se termine au Brésil.
Et les villes, c'est de l'histoire habitable, un peu. On veut.
Oui.
Et les campagnes aussi, c'est marqué aussi par les saisons, par plein d'histoires. Comment on pourrait qualifier, alors il y a des banlieues aussi qui sont très fortes en histoire, même si on finit par détruire des tours, et ça c'est une autre histoire, mais est-ce que c'est cette naissance des grands nulle part à l'américaine, c'est-à-dire des zones qui se ressemblent toutes, qui sont égales, qui sont juste liées... Vous voyez ce que je veux dire, les zones pavillonnaires, les endroits de rien, moi ce que j'appelle le grand nulle part, c'est pas un endroit un peu inquiétant, une façon de casser l'histoire.
Et
des
en
gens.
Même temps, je crois pas qu'il existe des non-lieux. C'est pour les gens, les nantis qui habitent les hauts lieux, pensent que plus bas qu'eux, en contrebas, il n'y a rien d'autre que de l'indifférence ou des solitudes mornes. Je pense que tous les lieux sont habitables et que pour l'histoire, ce qu'on a à habiter aussi, c'est moi ce que j'ai appelé l'entretemps. Hein, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle comme ça, l'entretemps. C'est-à-dire qu'il faut être attentif au temps faible de l'histoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans ce livre, ça fait 2 minutes qu'on n'en a pas parlé, alors je suis un peu...
Oui, je comprends, la promotion n'a pas été faite.
Donc,
l'histoire mondiale de la France, bien sûr, ça part comme des petits pains depuis ce matin.
Il faut citer la boîte, c'est vraiment important. Donc dans ce livre, il n'y a pas que des grands personnages, il n'y a pas que des batailles, il y a aussi des choses plus modestes. Il y a un esclave noir à Pamiers en 1446, un sultan turc à Bourganeuf en Creuse. Il y a des moments qui sont apparemment plus faibles du point de vue mémoriel, mais qui ont été vécus tout aussi intensément. Voilà.
Thomas Baumgartner.
Oui, non, une question d'ailleurs, c'est sur ces moments faibles sont appelés à bouger eux-mêmes du fait de la recherche des historiens. Dans un texte, je vous parlais du mouvement de l'histoire, de la caresse de l'historien sur l'histoire, du mouvement constant. Et il n'y a pas de non-lieu parce que un éventuel non-lieu qu'on pourrait désigner comme ça est appelé aussi éventuellement à rejaillir dans l'histoire.
Se repeupler. Et au fond, l'histoire consiste quand même comme discipline, mais aussi comme engagement civique et comme éthique de recherche. Elle consiste à faire droit à tous les devenirs possibles. il n'y a pas que ce qui était écrit d'avance, il n'y a pas que ce qui s'est proclamé de manière véhémente. Il y a aussi toute l'histoire plus humble. Voilà, on raconte dans ces histoires-là, il y en a aussi d'autres qui sont plus souterraines, comment des paysans ont asséché des marais en Languedoc et créé des paysages agraires extraordinaires qu'on identifie comme justement proprement français, alors qu'on montre, par exemple, c'est ce qui fait de cette histoire de la France qu'elle est mondiale, que cette technique de dans le Languedoc au XIIIe siècle d'assèchement des marais, eh bien, elle vient des agricultures savantes, irriguées d'Al-Andalus, c'est-à-dire des paysans arabes. Bon, voilà, ce sont des histoires comme ça qui sont brèves, fugaces, mais je crois encourageantes.
Patrick Boucheron, quel est le prix conseillé de votre histoire mondiale de la France ?
850, enfin je sais pas, moi je suis très très loin.
Non, mais pour les éditeurs de Nova, c'est 29 euros.
29 euros, un morceau d'histoire de France, mon camarade des nuits de Rio, monsieur Bernard Lavillier.
Après la pub alors.
Comment ?
Après la pub.
Oh, bah alors il y a un moment, moi c'est plus mon émission quoi. Je pars 4 jours, on fout de la pub partout.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Qu'est-ce que je dois te dire ? Mais qu'est-ce que je fais là ?
Voilà mon Lavillier. J'adore cette chanson, hommage à la French Valley.
Un grand sage et main d'ordre.
Bernard Lavillier.
Travailler encore. Travailler encore.
Elle m'émeut vachement cette chanson. Marie Missé.
Oui.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour.
Dis donc, il était pas là, Bert, là, pendant 4 jours.
Non,
vous deviez être contente, hein ?
Non,
bon, vous êtes contente ?
Non.
Si, vous êtes contente.
Bon, d'accord.
Ah, d'accord, vous étiez contente, merci.
Alors, la plupart des journaux s'intéressent aujourd'hui, et c'est pas une surprise, le salon de l'agriculteur est bien là, et bien à l'agriculture.
On en parlera aussi avec Tito tout à l'heure, voilà. Le salon de l'agriculture.
Alors, Le Parisien nous indique par exemple l'existence d'un magazine qui s'appelle Life and Farms pour conjuguer lifestyle et agriculture. Comment porter vos bottes en caoutchouc ? Quelle tenue pour désarcler ses tomates ? Bon, l'idée de l'article, c'est de dire que les urbains se rapprochent du mode de vie paysan et du, je cite, « bon sens paysan », notamment à cause d'innovations culinaires absurdes comme le ketchup râpé. Hein, qui nous incite tous à réfléchir au monde dans lequel nous voulons vraiment vivre. La Croix, comme Le Monde, profite donc du salon pour explorer les agricultures différentes. Dans La Croix, on s'intéresse à la micro-ferme maraîchère de Montlouis-sur-Loire. Elle appartient à Louis-Albert de Breuil, qui est propriétaire du château à côté, et d'un poétique conservatoire de la tomate.
Paysan.
Voilà. C'est un poétique conservatoire de la tomate, riche de 650 variétés menacées. Le but de cette micro-ferme, c'est d'innover en agriculture, avec les techniques de l'agroécologie de Pierre Rabhi, par exemple, ce qui demande une solide connaissance agronomique, une prise en compte des phénomènes biologiques, tout en s'appuyant sur une mine de savoir-faire anciens. Des savoir-faire qu'on avait rangés aux oubliettes, en découvrant le rendement incroyable grâce aux pesticides et à la mécanisation. Sauf qu'à la ferme de Montlouis, on pense que le mode traditionnel qui repose sur la chimie et la mécanisation est déjà dépassée et que ça coûte beaucoup plus cher qu'il n'y paraît. Et une étude de l'INRA le confirme. La ferme bio du Bec d'Aloin qu'elle a étudiée, qui sert d'exemple à celle de Montlouis, eh bien produit proportionnellement 3 fois plus qu'une exploitation classique qui a recours aux pesticides. Pourtant, à Montlouis, le pari n'est pas encore gagné. Le rendement n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, nous dit-on dans La Croix. C'est en revanche gagné pour les paysans bio présentés dans le supplément Époque du Monde. Ils ont ouvert en banlieue de Chambéry un supermarché, leur supermarché qui s'appelle L'Aravoir, dans laquelle ils se relaient. Alors le début a été difficile, on lit même dans Le Monde, le chemin jusqu'à ce supermarché paysan n'a pas été pavé de fromage de chèvre. Les gens pourtant aujourd'hui qui achètent sont contents, ils peuvent poser des questions sur leur fromage de brebis. Les paysans qui vendent aussi sont contents. En octobre, on nous disait dans Le Figaro qu'un agriculteur sur 3 gagnait moins de 350 euros par mois. Eh bien, grâce au supermarché paysan L'Aravoir, Gilles Cicero, paysan boulanger, eh bien lui, il gagne 2300 euros par mois. Ça lui va très bien. Et alors, dans ce cas, on se demande pourquoi tout le monde ne s'y met pas. Eh bien, un prof d'agro Paritech explique dans La Croix que tout simplement, ça demande beaucoup de travail, plus que l'épandage des pesticides, qu'il n'y a pas de recette toute faite et que tout est plus complexe. Or, comme le dit Cécile de Saint-Jean, éleveuse dans Le Monde, c'est difficile de changer du tout au tout, de réfléchir à comment faire mieux quand on a tout le temps la tête dans le guidon, quand on n'a jamais le temps compliqué de faire la révolution. Alors, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est un parallèle que j'ai fait dans ma tête, car tout...
Vous ne vous attendiez pas à des choses que vous faites vous-même. Ah oui.
Ben,
oui.
Ça vous arrive aussi, j'en suis sûre, Edouard. C'est que ces différents articles sur la nouvelle agriculture reposent un peu tous sur le même principe, qui est qu'ils s'appuient à la fois sur l'ancien, des savoirs anciens, et sur des technologies très modernes, comme en témoigne le dossier du Monde, le retour à la terre du geek à papa. Bref, ils parviennent à mêler sans faire la guerre l'ancien et le moderne. Et cette capacité à faire dialoguer les deux, eh bien, ça m'a fait penser à la vision de l'architecture développée par l'architecte Christian de Porzampac dans la revue L'Entretien. Il y défend, ça c'est moderne, l'arrivée des big data dans l'architecture et l'urbanisme. Il explique aussi que pour Le Corbusier, les rues faisaient du parti du passé, qu'il fallait en faire table rase. Je cite, « Ne faites pas de rue, pas de trottoir, pas de place et vous serez moderne. » Ça c'était la pensée Le Corbusier. Eh bien, tout en ne rejetant pas l'héritage, il explique à quel point une rue, pour lui, c'est important, il dit. Moi, je dis qu'au contraire, c'est la chose publique inventée en Grèce et à Rome, en Chine aussi, au même moment. C'est ce qui a organisé depuis toujours la vie ensemble. Une rue, c'est une chose formidable. Ça mêle le multiple dans l'unité. C'est une sorte de liste, c'est un moteur de recherche, c'est une suite d'adresses. Vous reconnaissez physiquement où vous êtes et où vous irez. Savoir où on est et où on va, l'idée est attrayante et l'interview de Christian dans L'Entretien est passionnante.
C'est devenu Christian. Oui. On est parti du salon de l'agriculture, on est parti du fou, on est un architecte Christian Porzampac, c'est devenu Christian. On n'est pas du public jusqu'à l'intime. C'est, je sais pas, ça vous a frappé.
Ah, moi l'architecture, ça me plaît, ça me frappe beaucoup, ça m'intéresse beaucoup et effectivement pour les raisons que vous dites. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'histoire immobilisée.
Hein, c'est ce que Christian de Porzampac explique très bien aussi, qui a un nom de famille.
Oui, très bien, parce que moi, je ne l'ai pas très bien expliqué. Là,
alors tout de suite...
très bien aussi.
Non.
8h25, c'est mon invité de 8h25, Tito El Frances, qui est l'honneur de cette émission. Notre flamenquiste était hier à l'ouverture du Salon de l'agriculture Port de Versailles. Tito, comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé, il y a beaucoup de monde, parce que ce salon maintenant est très à la mode. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller caresser les vaches, on peut toucher le poil des moutons, il y a des poules, on mange du fromage, on mange du jambon. Et hier soir, il faisait vraiment un très beau soleil là-bas.
Et tu as rencontré du monde, tu as parlé avec des gens?
Oui, alors moi je vais toujours dans le même stand parce que je suis abonné aux cochons, donc j'ai parlé avec des gens qui élèvent des cochons et c'était très agréable.
Alors pas n'importe quel cochon, nous sommes ici les amis voilà. du port noir de Bigorre.
D'ailleurs, ce matin, il y a le concours, comme il y a des concours, on fait avec la vache, comme cette année, c'est Fine qui a 6 ans, qui est une vache bretonne qui est à l'honneur de la foire cette année. Mais c'est ce matin, il y a le concours des noirs de Bigorre, des cochons noirs, et donc il y a à peu près 200 éleveurs qui vont présenter des cochons et pour savoir lequel est le plus beau, lequel est le plus gentil, celui qui sent bon, parce que c'est important aussi qu'un cochon ait une odeur avant qu'on en fasse du saucisson.
Ça sont des cochons très heureux, hein. Le port noir du Bigorre, il vit en plein air, il vit longtemps.
C'est ça, le cochon noir du Bigorre est élevé en liberté, hein. Et donc il mange toute la saison de l'herbe, de l'orge, des glands, des châtaignes, il grandit dans les sous-bois, il est peinard.
Il est bon à manger, beau à regarder, agréable à converser.
Voilà, quand on va dans les champs, par contre, il ne faut pas avoir un bout de pain dans les poches, autrement on se fait attaquer. C'est vorace, ça mange tout. Ça mange les girolles. On ne ramasse plus un champignon là-bas dans les montagnes. C'est terminé. Maintenant qu'il y a les cochons en liberté, ils y sont avant toi.
Girolles ou cochons, c'est un choix de société. A tout de suite, on retrouve tout le monde.
Plus près de toi, 7h, 9h.
C'est où déjà plus près de toi? Tu savais, non?
Et il est déjà 8h30, l'heure des infos de 8h30, Thierry Paré.
Attention aux fortes vagues. Météo France a placé 7 départements du littoral atlantique en alerte orange, alerte au risque de vagues submersives. Alors alerte orange, c'est 3 sur 4, hein, c'est quand même beaucoup. Les départements concernés, ce sont le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et puis les Pyrénées-Atlantiques également. La La Land 6, Moonlight 3, la comédie musicale de Damien Chazelle et le film de Barry Jenkins ont survolé la 89e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée cette nuit à Los Angeles. La La Land a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Emma Emma Stone, de la meilleure bande originale, de la meilleure chanson originale aussi, de la meilleure photographie, du meilleur décor. Moonlight a reçu, lui, l'Oscar du meilleur second rôle masculin, celui de la meilleure adaptation et surtout celui du meilleur film. Alors ça n'a pas été simple parce qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, le prix a été remis dans un premier temps à La La Land. Toute l'équipe de la comédie musicale a été appelée sur scène avant d'être conviée à repartir. Warren Beatty, qui était en charge de la remise de ce prix, affirme avoir eu un problème d'enveloppe. On n'en sait pas plus pour l'instant. Pour le reste, l'Oscar du meilleur acteur a été décerné à Casey Affleck pour son rôle dans le film Manchester by the Sea. A noter aussi l'Oscar du meilleur film étranger qui a été attribué au film Le Client d'Ashar Faradi. Acteur fétiche de James Cameron, l'acteur-réalisateur américain Bill Paxton est décédé ce week-end. Il avait 61 ans seulement, hein, des suites de complications liées à une opération chirurgicale. Bill Paxton a joué notamment dans Terminator, Alien, True Lies ou encore Titanic de Cameron. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a été installée hier soir au Conseil d'État par le ministre de la Justice. Objectif, saisir les autorités en cas de cyberattaque et veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats à l'élection présidentielle. Il y a du boulot. Deux personnalités de plus ont décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Il s'agit de l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit et du député socialiste Christophe Caresse. Emmanuel Macron, qui pourrait se retrouver au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, si l'on en croit un nouveau sondage de l'Institut Sofres. Le candidat du mouvement En Marche serait crédité de 25% au premier tour, donc juste derrière Marine Le Pen, qui arriverait avec 27%. Au second tour, Marine Le Pen serait battue dans tous les cas de figure probables. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, eux, se sont rencontrés. Le candidat du Parti Socialiste et celui de la France Insoumise ont confirmé qu'ils maintiendraient tous les deux leur candidature, dont acte. Les militants d'Europe Écologie des Verts ont, eux, entériné à plus de 79% le ralliement de leur candidat derrière Benoît Hamon, avec toutefois un faible taux de participation, hein, 55%. Empêtré dans les affaires judiciaires, François Fillon accuse le gouvernement, dans un communiqué, je cite, de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile qui perturbe la campagne. Il faisait référence à plusieurs meetings perturbés par des manifestations, l'un des siens, ou encore celui de Marine Le Pen du côté de Nantes, c'était ce week-end. L'affaire France Offshore ou la fraude fiscale pour tous, Nadhad Bensoussan comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, plus de 300 millions d'euros ont pu être soustraits au fisc grâce à son site France Offshore qui proposait sur Internet à des centaines de contribuables d'échapper à l'impôt en créant des sociétés dans des paradis fiscaux. Des vandales ont brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un cimetière juif de Philadelphie aux États-Unis. Dernier événement d'une série de menaces et d'attaques visant des sites juifs à travers l'Amérique. Alors que le carnaval de Rio bat son plein, un groupe intitulé Fora Temer, dehors Temer, a défilé en brandissant des banderoles exigeant le départ du président conservateur. Le PSG qui s'offre un classico historique sur le terrain de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1 hier soir. Les Parisiens sont allés s'imposer 5-1 sur le terrain de l'OM. 65 252 supporters marseillais ont assisté à la déroute de leur équipe. C'est un record d'affluence pour le Vélodrome. Autre rencontre hier, Lyon qui s'impose 5-0 face à Metz et Caen qui est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Saint-Etienne. Pas de changement au classement. Monaco reste en tête avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et Nice. Et puis en tennis, victoire, et c'est une autre victoire à Marseille hier, celle de Joe Wilfried Tsonga. Le Français pointe désormais à la 7e place du classement mondial, juste derrière Raphaël Nadal.
Alors pardon, j'étais pas là. C'était comment le journal, Patrick Bouchereau, j'étais pas là.
Ça allait, il y a eu un classico. Ça a fait péter les compteurs, il paraît.
D'accord. Je suis allé rencontrer Pedro Soler, Inés Bacan et Gaspard Claus. On a un live magnifique de flamenco, Tito.
Ouais, quelle chance d'avoir Inès Bacan ici et puis Pedro Soler, quoi. C'est Inès Bacan est une très très grosse figure du chant. C'est une dame d'un village de Outrera. Elle vient avec le chant de son village. C'est incroyable même de l'avoir ici. Je pense jamais.
Et tu croyais quoi? Tu croyais que c'était quoi la programmation musicale de Rudy dans les lives ici?
Non, non, c'est deux catégories aujourd'hui. Non, je retire.
C'est deux catégories. On est avec Jack souvent.
The news. Vous allez le prendre, ce Vélib, ou pas?
Non.
Allô?
Oui?
Allô?
Oui? Vous allez le prendre, ce Vélib, ou pas?
Je vais prendre mon Vélib. Oui, je vais prendre mon Vélib.
Est-ce que vous fumiez votre club, vous ne saviez pas, là?
Non, maintenant, non.
Pourquoi pas?
Pardon, je ne comprends pas très bien. Là.
Moi non plus, la situation m'échappe à ce moment.
Vous allez prendre lequel?
Lequel? Je vais prendre la 15.
Pourquoi le 15?
Non, je ne sais pas, je peux prendre le 16.
Oui, prenez le 16, oui.
Prenez le 16, sinon.
OK.
Parce que le 14, il est rouge.
Bah, oui, le 14, c'est pas possible.
Non. Mais dès le 15, on peut.
Le 15? Oui.
Le 16?
Je ne suis pas superstitieuse.
Il n'y a pas de 17?
Il se passe des choses intéressantes ici.
Là, vous avez
le 17 est très bien.
En fait, ils sont tous là, les Vélib. C'est sympa, ça.
Ils sont très, comment on dit, they are very clean.
Non, le 14, non, il est rouge. Il est pas. Faut pas le prendre, le 14. Parce que vous avez...
C'est vrai qu'ils ont été poncés, lustrés.
Bah, c'est...
Il y a un nettoyage, je pense, oui. Ils sont très jolis.
C'est le Vélib du lundi matin.
Ils sont très jolis. Pardon? Mmh.
Non, le lundi matin, le Vélib est plus... Il est neuf pour la semaine.
Pardon?
Pourquoi qu'est-ce le 14 est déjà en paix?
Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a en face de
Là, j'avais de faire long là-dessus.
C'est une porte avec une lettre, une sentence, justice pour Théo.
C'est graffé sur une porte?
Graffé, oui, sur la porte, oui.
Justice pour Théo, c'est un gros graphe sur une porte en chêne, là, devant nous.
Vous avez suivi, monsieur, cette histoire de Théo?
Oui, je comprends qu'est-ce que c'est ça. J'écoute la télé dans deux semaines. Oui.
Vous êtes d'où?
Je suis portugais.
Et vous vivez à Paris?
Oui, c'est ici à Nation.
Vous vivez à Nation, entre le 14, 15, 16 et le 17?
Exactement, et le 11.
Le 11, il roule le 11?
Mon porte, c'est la 11.
Le mec
vient de partir avec le 11.
Il vient de partir. Ah, il aurait dû prendre le 15.
Oh, il vient de partir avec le 11.
Tout le monde me fait des signes en studio. Coupe cette conversation. Tout le monde me dit que je vais être viré si je continue. J'ai envie de continuer.
Moi, dans l'oreillette, c'est pareil. On me dit vas-y, écoute.
J'ai envie qu'on continue.
Non, il y a une bascule possible, je sens.
Non, il va peut-être rien se passer, mais vous savez, dans la vie, c'est comme ça que ça dure plus longtemps, la vie, quand on s'ennuie un peu. Hein?
Pardon, I'm lost.
S'ennuyer un petit peu.
Moi aussi, je suis lost.
Passer sa vie à hésiter entre le 11, le 12, ne pas prendre le 13 par superstition, le 14 parce qu'il est rouge, le 15, le 16. Être surpris par l'arrivée de la réalité, comme... cet hommage à Théo sur un mur de Paris, mélanger du rien avec de l'histoire, sans le savoir en faire partie de la grande histoire.
Au revoir le 21.
Dans nos petites histoires à nous, partir en 21-11, des chiffres, des dates, des lettres, des mots, du temps qui passe, c'est pas mal.
Et puis on revient ici, parce que je voudrais qu'on parle un tout petit peu quand même. Qu'est-ce qui se passe ici?
Alors écoutez, le programme le voici, on a un écran pub.
Alors l'écran pub, on ne peut pas le virer, parce que ça ne me fait rien moi dans l'émission ça.
Vous avez tort, c'est
alors
bien.
Envoyez la pub et après on est avec Patrick Boucheron. On doit téléphoner, on voulait absolument avoir Romain Delahaye Molécule, qui est un musicien électro, qui est en direct du Groenland. Il est quelle heure au Groenland?
Moins 3. Moins
alors
3 heures,
il est moins 3, il est 5h30. Ensuite on a cet énorme live avec Pedro Soler. Je ne sais pas, je suis dépassé, je sais, envoyez la pub.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova, plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
C'est très bizarre ces sons qui arrivent. Bon, il paraît que c'est du comblage de trucs de pub, je comprends rien du tout. Nous sommes en ligne avec le Groenland, Thomas Baumgartner.
Oui, non, moi je suis ici, Edouard Baer.
Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, alors ensemble, nous sommes en ligne avec Romain Delahaye, alias Molécule, qui est en train de composer au Groenland.
Absolument,
comme il a fait
Paris-Reykjavik en avion, Reykjavik-Kulusuk en avion, Kulusuk-Talisak en hélicoptère et... Tassilac, vers Tinetekilac, en 8 heures en chien de traîneau, protégé par deux chasseurs en cas d'attaque d'ours polaire.
C'est pas le voyage de tout le monde.
Non, ouais. Et maintenant, il va falloir revenir. Bonjour, Molécule. Bonjour, Romain Delahaye.
Allô,
vous...
la France.
Oui, ça va? Vous nous entendez?
Je vous entendre, hein.
Allô, le Grand Nord.
Je m'entends très bien.
Vous êtes bien couvert?
Ah ouais, là, c'est...
Vous travaillez depuis...
Il fait pas trop froid là, il doit faire moins 12 là. Ça.
Ah oui.
Ça va, tranquille. Vous êtes donc à Tinetekilac depuis combien de temps? Quelques semaines maintenant?
Ça fait 5 semaines là, déjà.
Vous êtes allé...
Je ralentis un peu de rentrer à Paris, hein, j'avoue.
Vous êtes allé chercher quoi, vous, compositeur électro, dans cette région du sud-est du Groenland, à 3000 km de Paris?
Je suis venu chercher le silence, un peu un nouveau contexte pour inspirer mon prochain album. Et je suis venu avec tous mes instruments pour composer entièrement un album ici. Là, je suis en train de finaliser les derniers morceaux. Je rentre dans une semaine à peu près.
Quelles sont les distractions au sud-est du Groenland?
Alors, les distractions, c'est assez compliqué. Les inuits, en fait, dans un tout petit village, il y a 80 chasseurs avec leurs enfants. Donc, il y a une dizaine de jeunes. Et les gens boivent beaucoup ici. J'ai essayé là d'organiser un match de football la semaine dernière. Ouais. Et ça a mis une quinzaine de jours à s'organiser. Et personne n'est venu, par exemple.
Ça glisse donc, peut-être un peu. Ouais. Ça boit quoi? C'est quoi la boisson?
Un peu. Alors, la boisson, il n'y a pas grand choix. C'est la Carlsberg, la bière. L'alcool fort est interdit. Ils ont, soi-disant, un problème génétique. Ils ne supportent pas l'alcool et du coup, ça les transforme complètement. Ça peut être un peu dangereux, les rythmes qu'il a que le week-end. Ils boivent beaucoup le week-end.
Donc, pas de food, pas de bistrot, pas de resto, pas de musée, food, pas de thalasso.
Pas de resto.
Pas de spa.
Et une salle de ping-pong à la salle communale, donc c'est des parties de ping-pong endiablées, et c'est un des seuls moyens que j'ai de communiquer avec les jeunes, parce qu'ils parlent pas, on parle avec les mains, avec le regard, la communication est très compliquée ici.
Comment décrire ce silence que vous avez trouvé là-bas, dont vous allez vous servir pour vos compositions musicales?
Le silence, c'est un silence assez pesant, c'est surtout s'écouter, soit c'est un peu un révélateur de une manière de se questionner, de se regarder. C'est un village très bruyant, il y a donc 80 Inuits et il y a 300 chiens de traîneau, c'est des chiens groenlandais qui sont entre le chien et le loup et qui chantent, qui font beaucoup de bruit. Il y a des corbeaux, dans le village c'est assez bruyant, il y a beaucoup de sonorités, mais dès qu'on part, si on croise pas un ours polaire, là on n'entend plus rien et ça peut faire un peu peur.
Est-ce qu'on arrive, Molécule, est-ce qu'on arrive à s'oublier en tant que compositeur, oublier ses habitudes, oublier ses repères pour trouver justement un son nouveau, une autre manière d'agencer les sons? Vous avez déjà fait ce type d'expérience, vous étiez décentré en quelque sorte, vous avez composé sur un chalutier en haute mer, vous aviez ramené des sons à l'époque qui avaient servi à la composition d'un album. Là, d'une certaine manière, vous renouvelez l'expérience mais ailleurs, différemment. Est-ce qu'on arrive à s'oublier soi?
C'est l'idée. L'idée, c'est de se perdre. Là, j'y suis bien arrivé quand même. Hein. J'avoue que je sais plus trop où je suis. Le résultat, j'ai aucun recul sur ce que je fais. Donc, je vous ferai écouter. Hein, vous me direz. Mais je suis content. Je suis dans l'action là. Et il y a des super belles rencontres. C'est une belle aventure humaine. Et puis, j'ai trouvé des notes qui me font quelque chose. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie.
Bon. Vous avez déjà le titre de l'album? Qu'on ait un repère, nous?
Non. Alors, ça, pas du tout. Ouais. C'est rendez-vous demain avec un chasseur là, pour qu'il me donne des... Non, les noms groenlandais ne sont pas évidents. Ils n'écrivent pas, c'est une langue orale, qui ne s'écrit pas. Donc, c'est pas facile, hein, mais on va trouver.
Courage, Molécule, courage, Romain Delahaye. On est avec toi. On sent bien sûr dans ta voix que... Tu as trouvé, tu as perdu en même temps, tu es entre les deux, tu es dans ce moment de fragilité, d'incertitude où le pire peut arriver mais le meilleur aussi. Et c'est vers ça que tu vas aller. Et on est avec toi dans ce froid extérieur et intérieur qui te traverse dans la tragédie d'un homme qui veut réunir une équipe de foot et qui se retrouve face à une bouteille de Carlsberg. Il y a le destin d'un homme. Nous sommes avec toi, ton billet d'avion est réservé. 5 avions, 4 hélicoptères, 8 chiens de traîneau. Un jour tu seras de retour dans la réalité de ta vie quotidienne et c'est à ce moment-là que tu voudras repartir. Salut camarade.
Tu me réchauffes le cœur. Salut. Salut Paris, à bientôt.
Salut. Alors, retour plateau, émission bourgeoise, des invités, de la conversation, je veux du fond, je trouve qu'on a très mal reçu Patrick Bouchon, qui est un des plus grands historiens français, il m'a dit « I've never been traité de la sorte ».
Yes, never.
Romain, pourquoi Romain ?
Je sais
Thomas,
pas.
Thomas Baumgartner, juste oui, avant Francis de retrouver Mère. Les plus grands artistes de flamenco qu'on a la chance d'avoir ce matin, je voudrais qu'on termine avec Patrick.
Oui, pour reprendre ce titre « Histoire mondiale de la France », c'est 146 histoires avec 122 auteurs, 122 historiens que vous avez donc dirigé, Patrick Boucheron. Juste pour comprendre le principe de cette histoire mondiale de la France, c'est bien la France dont il est question, mais traversée par des influences, influences en elles-mêmes parfois, c'est au regard du monde en fait. Il y a cette citation de Jules Michelet qui au début, ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France, qui sert un peu de direction à tout ça. Il faut vous donner quelques exemples. Par exemple, moi j'avais oublié, ou je ne savais pas d'ailleurs, qu'en 1790, la France avait fait une déclaration de paix au monde. Et c'est Sophie Vanish qui raconte ça dans le chapitre qui est dédié à cette date-là, 1790.
Oui, parce qu'écrire l'histoire mondiale de la France, ça veut dire écrire l'histoire d'un pays comme les autres, donc qui n'est jamais qu'un bout du monde. Et en même temps, ce bout du monde a eu l'incroyable prétention, à plusieurs moments de son histoire, d'englober la Terre entière. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'universel. Et c'est ce qui fait qu'au regard du monde, à bien des égards et en bien des moments, la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres. Évidemment, y a des moments, et le moment lumière-révolution est un des moments clés de ce pari de l'universel. Sophie Van Niche le raconte, mais ce n'est pas qu'une histoire heureuse, parce qu'il y a à la fois l'histoire du muséum et aussi l'histoire de la terreur. C'est-à-dire que ça contrebalance à chaque fois à la fois une histoire de la France mondiale, celle qui s'exporte, celle dont les influences ou les remords ou les, vont au large, et en même temps celle qui reçoit.
Il y a cette histoire. Ça signifie qu'il n'y a pas une grandeur révolue de la France. Il y a toujours un équilibre, il y a toujours une histoire, un contre-champ.
Les moments de déception sont juste des retours au réel. C'est-à-dire que la France est quand même un Finistère de l'Eurasie, une sorte de bout de péninsule.
L'extrême-ouest.
Donc, lorsque, évidemment, cet insensé projet qui consiste à s'expliquer avec le monde trouve ses limites, c'est pas un échec, c'est juste un retour à la normale.
Vous allez contre l'idée du récit national. Il y a certains candidats, François Fillon pour pas le nommer, qui souhaitent un récit national de l'histoire dans l'éducation nationale, décidé par quelques académiciens. C'est une manière de répondre à ce type de fantasme.
Bah parce qu'on n'a plus l'âge de réciter, c'est très joli des récitations. On en a eu un exemple tout à l'heure, mais justement là, on n'écrit pas un manuel d'histoire, on n'écrit pas des lignes de programme, on propose un livre. C'est une proposition. Voilà, ça ne prétend à rien d'autre que de rendre visible une autre façon, une histoire de France à venir.
Voilà, vous nous racontez, vous et les 122 auteurs dans cette histoire mondiale de la France, vous nous racontez encore une fois la question du récit et de la narration. Il faut citer ceux qui ont coordonné avec vous ce livre, Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin et Pierre Singara-Vellou.
Et voilà. L'éditrice aussi, Séverine Nickel, parce que c'est un livre qui défend la cause des livres.
Merci, cher Patrick Boucheron, c'est au seuil. Et vous êtes très sympathique en plus. Et ça, c'était pas prévu du tout.
Je tente de ne pas l'être.
Non, je sais, c'est beaucoup de travail. Merci. Pourquoi vous avez mis ce moment-là, ce morceau que
j'aime bien ? J'avais envie, j'ai pris cette décision.
Parce que je repars demain pour quelques jours en Afrique du Sud. Je serai au téléphone. Je continue mon tournage.
Et on fait comment ?
Je serai au téléphone, mais là, on va retrouver le live. Est-ce qu'on est en duplex avec Rudy ? C'est une chance incroyable, c'est génie de flamenco.
Je suis là, bonjour.
Bonjour Rudy, est-ce qu'on est obligé de mettre la pub avant ? On met la pub, Rudy.
Mettons la pub.
On rejoint Agnès Bacan et Pedro Soler, tout le monde. Je vous rejoins à côté, c'est magnifique.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
Plus près de toi.
Quel physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
Nous sommes juste à côté là dans le grand, comment on l'appelle, je sais plus comment on appelle, c'est le café Nova, mais comme Pat n'est pas là en ce moment, c'est la notion de café ne marche pas. Nous avons la chance, Rudy, aujourd'hui d'avoir des très très grands noms du flamenco.
Tout à fait. C'est un petit pas de côté qu'on fait par rapport à d'habitude sur un genre que personnellement je maîtrise pas totalement, et pourtant c'est le propre intérêt de la musique. Parfois nous n'avons pas besoin de savoir pour ressentir. Nous avons reçu un disque il y a quelques jours qui nous a totalement chamboulé, un disque profond, violent, puissant, percutant que nous voulions partager avec vous ce matin. Cette œuvre s'intitule Serrana. Elle est la rencontre de trois personnages. Tout d'abord un père et un fils, en la personne de Pedro Soler, virtuose de la guitare flamenca classique, et Gaspar Claus, violoncelliste, aventurier et touche-à-tout. Pedro et Gaspar se sont associés à Inès Bacan, reconnue comme l'une des plus grandes chanteuses de flamenco depuis plus d'une vingtaine d'années. Inès Bacan est issue d'une famille du sud de l'Andalousie, destinée, dédiée au flamenco. Elle considère son chant comme une longue conversation avec elle-même que parfois d'autres peuvent comprendre. Et nous sommes certains que vous allez comprendre. Son chant ressemble à un cri primal, un cri de la mémoire qui nous ramène à ce que nous ressentons de plus pur, de plus vrai, de plus dépouillé. Je ne vais pas en dire plus car ce flamenco-là ne se décrit pas, il se vit. Par contre, Tito, je veux bien que tu dises deux, trois mots.
Parce que Tito, lui qui connaît le flamenco, il était épaté qu'on ait Inès et Pedro ce matin.
Et oui, Inès qui vient d'un village de l'Ebreja où il y a... C'est un chant de famille, avant tout. C'est un chant de la famille Bacan. Sa grand-mère était une immense chanteuse dans le style des Alegrías. C'est une grosse figure du chant qu'on reçoit, authentique. Et puis Pedro à la guitare. Pour ce qui est flamenco, on est gâtés. Hein. On a vraiment... Hay mucho arte, muchísimo arte.
Ils vont nous interpréter en pure acoustique, guitare, violoncelle, chant, un morceau de cet album Serrana. Le morceau, c'est Nana del Mar. Alors, c'est une berceuse, puisqu'il y a plusieurs manières d'interpréter le flamenco. Une berceuse écrite par le fils d'Inès Bacan, Nana del Mar. Pedro, Gaspar, Inès, c'est à vous.
Inès Bacan, Pedro Soler et Gaspar Claus. Merci beaucoup, magnifique Nana Flamenco.
Ils seront en concert à la Marbrerie demain.
C'est fini, on se retrouve demain. Je suis très heureux de vous retrouver. Moi, je serai en duplex à Johannesburg. Mais nous serons tous là quand même avec tous les amis. Voici maintenant les 30 Glorieuses. Salut.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.